Je suis très contente de pouvoir vous présenter le nouveau roman de l'auteur José Ouimette qui a accepté notre invitation. Le roman a pour titre Un vent d'orage. C'est le tome 1, L'électron libre. Madame Ouimette, bonjour.
Bonjour, Madame Landry.
Comment ça va?
Oh, ça va bien, moi. Le soleil est au rendez-vous ce matin. Ça va très bien.
Bon, de notre côté aussi, là. C'est parfait. Madame Ouimet, vous avez publié près d'une soixantaine de romans, sinon plus, autant pour les jeunes que pour les adultes. Vous avez toujours la passion?
Ah oui, toujours. Toujours. Vraiment, c'est un plaisir. Puis ça, j'ai même enseigné l'écriture romanesque à plusieurs reprises ou donné des ateliers. Je disais toujours à mes candidats qui étaient là, mes élèves, c'était pas des élèves, mais c'était des auditeurs libres, je leur disais, il faut toujours que ce soit un plaisir. Vous devez écrire par plaisir et non pas vous acharner à dire qu'il faut absolument écrire pour les autres. Donc, c'est un plaisir très égoïste. Je répète souvent ça, que c'est un plaisir égoïste que d'écrire.
Votre nouvelle série, Un vent d'orage, aura combien de tomes? Est-ce que vous le savez déjà?
Oui, je suis en train de travailler le troisième tome, madame.
Oui,
ça va être le dernier. Ça va être une trilogie, oui, c'est ça, c'est trois tomes.
Nouvelle série historique, parce qu'on est dans les années 40 avec cette histoire qui nous présente, entre autres, Alice Fafard, une jeune femme qui veut prouver là, qu'elle a sa place comme femme dans un monde d'adultes, si je peux dire. Un monde de d'hommes, surtout.
J'ai écrit quand même auparavant des sagas qui mettaient en vedette des femmes qui étaient d'un milieu un peu plus rural, des orphelines, peut-être des milieux un petit peu plus misérabilistes dans le sens où il y avait moins de modernité.
Oui.
Cette fois-ci, j'ai voulu mettre de l'avant cette montée vers de la société vers ce qu'on appellerait la classe moyenne. À mon avis, il y avait... En tout cas, moi, je suis de Saint-Hyacinthe, donc l'action se situe à Saint-Hilaire, Mont-Saint-Hilaire. Donc, j'ai voulu démontrer qu'il y avait des gens, des parents, qui avaient une certaine éducation, une certaine instruction, et qui voulaient que leurs enfants, même les filles, puissent être instruites, puissent avoir une ouverture. Mais c'est sûr que dans la société en général, la femme n'avait pas beaucoup d'options au niveau du travail. Elle pouvait... Si elle voulait rester active au niveau social ou être indépendante, il y avait soit institutrice, infirmière, il n'y avait pas grand choix. Alors que là, on a une mathématicienne chevronnée qui a beaucoup, beaucoup de connaissances et de compétences, et les parents, voyant ça, se disent pourquoi pas aller à l'université. Mais c'est un fait que rendu au niveau de la société, dans la famille, ça allait bien, on avait vraiment des idées avant-gardistes, mais dans la société en tant que telle, on devait se plier à certaines règles très, très strictes. On est donc dans les années 40, comme vous dites, les années 40, 43. Mais il faut dire aussi que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette période de la Deuxième Guerre mondiale a fait bouger beaucoup les choses. A donné de la place aux femmes au niveau du travail, au niveau... J'avais même lu à un moment donné que le gouvernement fédéral avait pensé faire une conscription pour que les femmes travaillent. Obliger les femmes à travailler dans les usines ou ailleurs. Alors ça, c'est quelque chose dont on entend rarement parler.
C'est vrai, c'est vrai. La condition féminine a toujours été assez importante pour vous dans vos romans, là.
Oui, la condition féminine, je ne mets pas de côté la condition masculine aussi, parce que ces hommes-là étaient vraiment restreints à des règles strictes aussi. Mais le fait de... Moi, j'ai eu un père qui était pourvoyeur, il ne voulait pas que ma mère travaille, mais que si ma mère avait travaillé, peut-être qu'il ne serait pas mort à 60 ans. Vous comprenez le principe?
Oui, oui, oui.
J'ai toujours mis un peu le défaut sur l'autorité cléricale, beaucoup plus que n'importe quel autre diktat politique ou familial. Mais oui, la condition féminine, parce que ce sont souvent les femmes qui, après une catastrophe, après un chaos, après un cataclysme, après une guerre, qui vont reprendre en main. Et même pendant tous ces événements-là, moi, j'avais entendu à un moment donné, pendant la guerre en Irak, que les femmes... même pendant la guerre, continuaient à donner, à faire l'éducation des enfants. Bon, ce sont toujours elles qui tiennent à bout de bras, finalement, l'éducation, prendre soin des gens, faire à manger, etc., etc. Alors, de toutes les civilisations, la femme reste quand même un pilier important. Mais on l'oublie. Et dans ce roman-là, je voulais mentionner qu'il y avait eu des femmes qui avaient travaillé dans un laboratoire secret, on les appelait les calculatrices. c'était des femmes extrêmement compétentes qui étaient des mathématiciennes hors pair. Aujourd'hui, on les appellerait des ordinateurs.
Oui.
Et qui avaient une précision exceptionnelle. Alors, on faisait confiance à ces femmes-là, mais l'histoire ne leur rend pas honneur, ne leur rend pas hommage. Alors, dans un livre qui s'intitule « Montréal et la bombe », dans lequel j'ai puisé beaucoup d'informations, je lisais ça, on parlait des calculatrices, il y avait peut-être deux pages dessus, donc complet dans le livre, et on mentionnait peut-être trois noms, alors qu'il y en a eu une quarantaine qui ont travaillé là.
Parce que...
Et à la fin du livre, il y avait, ou dans le milieu du livre, il y avait une photo où tout le personnel physicien chimiste était rassemblé, il n'y avait que quatre femmes devant. Mais pourtant, il y en avait plus que ça. Pourquoi est-ce qu'on a oublié de mentionner que ces femmes-là, un peu les figures de l'ombre de la NASA qu'on a vu le film?
Mm-hmm, oui.
Pourquoi? Alors, ça a accroché finalement un petit peu mon intérêt sur la condition féminine de cette situation-là. Parce que les conditions féminines, elles sont multiples. Dépendamment des situations, dépendamment des circonstances.
Et pour revenir à votre roman et Alice Fafard, ça vous a demandé beaucoup de recherches, j'imagine, Madame Ouimet.
Oui, d'abord, vive l'intelligence artificielle. Parce que quand j'écrivais en 1995 le Moussaillon de la Grande Hermine, j'avais de la difficulté à trouver même des informations sur Jacques Cartier, son premier, deuxième et troisième voyage.
Oui, oui.
Il fallait que je consulte beaucoup de livres, donc je me retrouvais beaucoup, je pouvais pas tous les acheter, puis on n'avait pas nécessairement non plus, alors je lisais beaucoup. Alors moi, ce que je fais, vive l'intelligence artificielle qui me donne des pistes. Ensuite, j'essaie de trouver nécessairement des livres et je passe à travers des livres. Et dans ce cas-ci, il y avait « Montréal et la bombe » de M. Sabourin qui avait été publié dans les années 2010. Il y avait ensuite un livre qui s'appelait « Le projet Manhattan » qui a été écrit en collaboration, il y a deux auteurs, mais c'était auprès de l'Université Laval, je crois. Et j'ai été obligée de l'acheter directement. Il n'était pas en librairie.
Okay.
Et sur Amazon, je me suis mise à chercher et il y avait un livre qui s'appelait Pionnier, mais qui s'appelle Pionnier de la tombe, écrit par Bertrand Goldschmidt, qui est directement impliqué. Donc, c'est un scientifique qui a vraiment existé. Et c'est un livre qui est paru, il me semble que c'est dans les années 60, tout juste après. Mm-hmm. Et Bertrand Goldschmidt, là-dedans, raconte les anecdotes qu'on ne pourrait pas trouver sur. Avec l'intelligence artificielle. Alors, voyez-vous, oui, beaucoup de recherches, mais moi, je lis très, très rapidement.
OK. Ça.
Et je prends beaucoup de notes. Et vous devriez voir mes livres. Parfois, les post-it, c'est un arc-en-ciel de couleurs, il y en a.
Ce qui veut dire qu'il y a bel et bien eu un laboratoire secret à Montréal?
Oui, il y a eu un laboratoire secret à Montréal. Ce qui est arrivé, c'est que à la Deuxième Guerre mondiale, vers la fin, Churchill avait peur que les scientifiques soient pris en otage par les nazis. Il y avait une course à l'armement, faut pas se le cacher. Et il y avait donc un laboratoire à Cambridge. Churchill, il a donc nettoyé. Quand il a vu l'avancée des nazis, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, il faut mettre à l'abri ces scientifiques-là, il faut mettre à l'abri aussi la fortune britannique, parce qu'il y a eu l'opération Fish qui a fait en sorte qu'ils ont rapatrié beaucoup à Montréal et à Ottawa des lingots d'or et tout ça, donc les fortunes, la fortune britannique. Alors, on se retrouve donc avec des scientifiques qui sont à Cambridge. Et ça s'est passé à Québec, la rencontre entre Mackenzie King, Churchill et Roosevelt. Et c'est là qu'a pris naissance le projet qu'on appelait Tubaloys pour les Britanniques, qui était en partenariat avec le projet Manhattan des Américains. Alors, ça s'est fait à Montréal parce que c'était à l'abri des dangers possibles d'une invasion allemande en Grande-Bretagne.
C'est fascinant de vous entendre. Vous êtes... je pense que vous avez plein de post-it en tête aussi, Madame Ouimet.
Ah,
incroyable.
Mon mari, souvent, quand on est sur la table, le soir, il me pose des questions. Souvent, je suis blasée, je réponds pas, j'ai trop de choses, ça tourne dans ma tête. Puis là, il me pose toujours la question, on est combien à la table ce soir?
Bon,
alors, oui, moi, je plonge dans l'histoire comme un enfant dans une piscine. Moi, je veux dire, je me laisse emporter, je me laisse voguer sur tout ça. J'adore l'histoire. J'ai été professeure d'histoire et de français très longtemps au secondaire et je trouvais que lorsqu'on enseignait l'histoire générale, on avait de la documentation, on pouvait savoir tout sur le roi Louis XIV, etc., etc. Et quand j'ai enseigné l'histoire du Canada, dans les années 80, je me disais, tabarouette, on n'a rien. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver? Ça se peut pas qu'on n'ait pas d'histoire, qu'on n'ait pas des anecdotes savoureuses à raconter, qu'on n'ait pas des personnages à mettre de l'avant. Et j'ai vraiment planché là-dessus. Et en 95, on avait publié chez Urtubise pour les jeunes Le Moussaillon de la Grande Hermine.
Oui.
Qui était le premier roman historique, ou à peu près, qu'on offrait aux jeunes. Les éditeurs disaient, ou les distributeurs et libraires disaient, bon, on vendra pas ça, parce que c'était l'époque du roman miroir, avec La Courte Échelle et tout ça, où est-ce que les enfants essayaient de trouver une réponse à leur questionnement existentialiste. Mais bref. Mais ça a fait quand même boule de neige. Et c'est un petit peu à partir de ça que... parce que je voulais raconter l'histoire. Il faut apprendre notre histoire, mais il y a une façon aussi de la raconter. Alors moi, ce que j'aime, c'est de tricoter deux laines de couleurs différentes, c'est-à-dire un schéma narratif où est-ce que là, je raconte l'histoire, mais aussi un schéma actentiel où est-ce que, dans un décor historique, je fais jouer des personnages fictifs. Et c'est le cas de... C'est le cas de notre Alice Fafard, qui est c'est un personnage fictif, mais qui est crédible dans le sens où elle se place dans une condition ou dans un temps donné au niveau du schéma narratif. C'est à travers tout ça qu'on regarde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai ajouté cette fois-ci, dans le premier tome, dans les différents tomes, une liste des personnages réels, comme Hans Alban, Lou Kowarski, etc., et les personnages fictifs. Ça aide le lecteur peut-être à savoir... À départager un petit peu la part du réel et du fictif.
C'est déjà tout le temps qu'on a, malheureusement, Mme Ouimet. J'aurais pu vous garder encore très longtemps. C'est tellement intéressant de vous entendre. Alors, on invite les gens à découvrir Un vent d'orage. C'est le tome 1, L'électron libre. Alors, on suit l'histoire d'Alice Fafard, une jeune femme de 20 ans qui étudie à l'école normale. Elle veut devenir enseignante. Mais il y a beaucoup plus là, qui s'en vient pour elle là, dans ce livre.
Oui, puis surtout qu'il y a cette quête toujours de l'amour, l'amour idéal, l'amour un peu... Celle qui sort du pensionnat depuis 3 ans qu'elle est pensionnaire, et elle veut découvrir elle-même, trouver sa voie. Et c'est pas facile dans un monde de guerre où est-ce que... Et la question qu'on se pose rarement, l'homosexualité féminine. On ne voit pas très souvent ce positionnement-là au niveau du roman historique.
C'est vrai, ça.
J'invite parce qu'il y en a eu.
Oui. C'était aux éditions Urtubise, Un vent d'orage, José Ouimet, 24,95 $, 296 pages. Tellement intéressant de vous lire, Mme Ouimet. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser.
C'est un plaisir, Mme Landry. Merci.
Au revoir. Bonne journée.
Bonne journée.